Radio pour l'UNESCO.
Pour une culture de la paix.
Tu vois, la personne, il sourit, sa façon de sourire. Il sourit parce qu'il veut la paix. Sa façon de marcher, il marche pour la paix. Sa façon de donner, aider, c'est pour qu'il y ait la paix. Je chante pour ces gens-là, pour qu'il y ait la paix.
Oui, il est de ton corps, bébé, balala.
Avec Abdou Diom, professeur des sciences de la vie et de la terre et coordinateur du club UNESCO Aide aux jeunes au Sénégal. Anne-Bernard Goutot, professeur d'histoire géo au lycée de Fonsorbe. Françoise Regnault, du Conseil fédéral de la Fédération française pour l'UNESCO. Et Francis Belinka, responsable associatif de l'association et club UNESCO Soir au village, culture et diversité. Pour une émission spéciale, sur les initiatives au Sénégal et les actions des clubs UNESCO. Bonjour à tous, présentez-vous s'il vous plaît, je fais un tour de table.
Bonjour, je suis Anne-Bernard Goutot, professeur d'histoire géo au lycée de Fonsorbe.
Bonjour, je suis Abdou Diom, professeur des sciences de la vie et de la terre, coordonnateur du club UNESCO Aide aux jeunes au Sénégal.
Bonjour, je suis Françoise Regnault, professeure d'histoire-géographie honoraire aujourd'hui et conseillère fédérale de la Fédération française pour l'UNESCO.
Bonjour, Francis Belinka, Club UNESCO, responsable d'association Soir au village, culture et diversité, et aussi animateur radio, journaliste.
Alors aujourd'hui, on est très heureux de vous recevoir pour que vous nous parliez plus précisément des projets que vous développez au Sénégal.
Avant de démarrer, je ne saurais ne pas vous remercier très sincèrement de me donner cette opportunité en tant que radio pour se faire peut-être mieux connaître au niveau du Nord. C'est vrai que je viens du Sénégal, mais je suis en France en contact avec la Fédé française des clubs UNESCO depuis maintenant 20 ans, si j'ose dire. J'ai la chance de rencontrer Françoise Regnault, qui est aujourd'hui conseillère de la FEDE au niveau de la région Midi-Pyrénées, qui m'a mis en rapport avec Anne Goutot. Et j'étais porteur d'un projet, mais je représentais simplement un club UNESCO qui s'appelle Aide aux jeunes. Mais pourquoi Aide aux jeunes? Parce qu'on était en partenariat avec un club UNESCO de Vary qui s'appelait Aide aux jeunes et qui s'écrit D.O. Trait d'Union Jeunes. Et moi, j'ai voulu simplement paraphrasé en disant « aide aux jeunes », mais cette fois-ci en l'écrivant correctement « A-U-X-E », aux jeunes de ma ville natale. Et ce club UNESCO est porteur d'un projet dans un centre qui est un espace de promotion communautaire qui devrait prendre en charge les intérêts d'une population rurale dans un quartier du département de Thiès, dans une commune ancienne déjà, c'est la 13e commune au niveau du Sénégal, qui s'appelle Khombol. Et le club UNESCO Aide aux jeunes avait mis en place, pour atteindre ses objectifs, un centre dénommé CIEL. CIEL pour dire également Centre d'insertion, d'information, d'éducation et de loisirs. Qui a voulu avoir une ambition, c'est participer à la prise en charge des préoccupations, des coûts sociaux de ce quartier qui est démuni, en mettant en place plusieurs structures, notamment une garderie d'enfants, une structure prenant en charge les handicapés moteurs, une structure prenant en charge les jeunes pour l'initiation à l'informatique, l'apprentissage à la couture pour les jeunes filles, le maraissage hors sol avec les handicapés moteurs, mais également une école de football, mais surtout de mettre en place une centrale d'achat pour les femmes qui sont vraiment, comme on dit, si tu arrives à gérer une maman, tu arrives à gérer un monde. Et de là, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas vraiment miser sur la centrale d'achat avec les femmes pour mettre en place cette activité génératrice de revenus. Ainsi, Nous avons créé ce que l'on appelle un groupement d'intérêt économique, GIE, des femmes. Femmes qui veut dire DIEG en Wolof, pour l'acronyme D-I-E-G. Mais pour dire développement des initiatives pour un épanouissement général. Mais surtout, le centre était également un espace de soutien scolaire. Et on a voulu faire une solidarité en 10 ans, un concept élève aide élève. C'est-à-dire, ceux qui sont en terminale vont encadrer ceux qui sont dans les classes inférieures et ceux qui sont en troisième dans les classes inférieures dans le moyen. Et les profs du quartier se sont regroupés pour gérer maintenant les classes d'examen. Et tout ça se faisait au niveau d'un abri provisoire qui avait à peine 200 mètres carrés. Et on a pu en un premier temps bénéficier d'une subvention du Fonds social de développement, le FSD, logé au SCAC, Service de coopération et d'action culturelle, de l'ambassade de France à Dakar, pour un montant test, je dirais, de 5 millions de francs CFA. Peut-être à peu près moins de 850 euros, peut-être 10 ans, pour un premier financement. Et avec ça, nous avons pu prendre en charge non seulement l'alphabétisation des femmes auditrices, prendre en charge l'initiation en informatique des jeunes, mais également équiper avec des nattes la garderie d'enfants, mais également dans l'espace, il y a ce que l'on appelle le programme de renforcement nutritionnel pérenne, géré par une puéricultrice bénévole. Et ce premier financement a été bien géré par les populations au sein d'un comité de gestion, issu d'un comité directeur, désigné par l'Assemblée générale du quartier, avec le représentant du maire, c'est le délégué de quartier. Et comme moi, j'avais la chance d'être en même temps le président de la COBDES, de la coopération décentralisée, chargé des relations extérieures de la mairie de Humboldt, j'ai eu la chance également vraiment de représenter le centre au niveau du conseil municipal. Disons, pour revenir un peu sur la première subvention, après utilisation, ils ont fait une évaluation. Ils ont vu que vraiment c'était une affaire des populations. Ils se sont appropriés tous les objectifs qui étaient fixés par l'ambassade dans son canevas de financement. Et ce qu'ils nous ont demandé, comme le centre était devenu trop exigu parce que sollicité par toutes les populations, il fallait faire une autre subvention pour construire un bâtiment. Entre-temps, on a eu la chance de rencontrer un club UNESCO qui était logé au lycée de Pamiers et qui était encadré par, excusez-moi, mais je vais dire Annette, parce qu'elle est devenue amie. On se connaît depuis 14 ans. Par l'intermédiaire de Françoise Rognaud, qui est vraiment maintenant que j'appelle. Mais ça, je le dis, hein, mais c'est la mère de Humboldt, mais M-E-R-E. Pourquoi? Je le dirai dans les détails. Ça fait 20 ans qu'on se connaît maintenant. Donc, quand elle nous a mis en réseau avec Anne Grouton, qui gérait le club UNESCO de Pamiers, ils étaient déjà sur un projet de bibliothèque, ou je peux dire d'accompagnement de lecture au niveau du Sénégal. Mm-hmm. Ils avaient déjà fait la collecte. Et même comme je suis venu ici en 2003, à la recherche de partenaires, c'était la première fois que le ciel ouvrait ses vannes. On a eu la chance d'avoir notre première pluie. C'était avec le club UNESCO de Anne-Bernard Courtois, qui a voulu venir avec ses jeunes à Humboldt. On les a accueillis. Ça a été une première dans la ville de Humboldt, dans notre quartier rural. Quand même, quoi qu'on dise, je suis dans une commune rurale de 20 000 habitants. Avec mon quartier qui abrite aujourd'hui 6 000 habitants, qui sont presque dans les deux tiers membres du ciel. Elle a vécu ça, ce que je dis là. Et maintenant, en venant avec ces jeunes, accompagnés par Françoise, on a eu à mener des activités en collaboration avec la mairie. D'ailleurs, je me rappelle, on avait pris un responsable de la mairie qui était le trésorier. C'est-à-dire, ce qui passait au centre passait par le représentant du maire avant de nous parvenir. Pour gérer la transparence, c'est important dans nos pays. Et sur ce, ils ont fait un séjour au Sénégal. On en a profité pour avoir une ambition également, faire une extension de notre abri provisoire. Et leurs jeunes, avec les nôtres, ont eu à poser la première pierre pour dire que faisons... On n'avait pas encore de financement, hein? Faisons un centre à la dimension de nos ambitions. On a posé les premières pierres, on est allé chercher l'eau ensemble, on est allé chercher les briques ensemble. Donc, on a fait vraiment la fondation ensemble entre jeunes Sénégalais et jeunes Français sous un soleil ardent. C'était beau à voir.
Donc là, on est sur de la vraie coopération nord-sud.
Sur le terrain.
Sur le terrain.
Moi, j'ai une question sur le... ces projets semblent tout à fait novateurs. Comment est-ce que vous co-construisez avec la population? Parce qu'on sent bien dans ce que vous dites que les habitants du quartier sont très investis. Mais comment, d'une idée, on arrive jusqu'à, ben, par exemple, vous parliez de la formation informatique pour les personnes handicapées moteurs. C'est quoi le cheminement?
Merci. Moi, je dis, j'ai la chance d'habiter ce quartier rural. J'ai bénéficié de l'argent du contribuable pour devenir professeur. J'ai eu mon bac, j'ai été à l'université. Après la maîtrise, j'ai fait l'école normale supérieure. Et je ne pouvais pas aller dans mon quartier rural, où il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels, distribuer de l'argent. Je me suis dit comment participer à l'épanouissement de ces populations. Et comme je suis un produit du mouvement associatif, très connu dans le quartier, nous sommes regroupés au sein d'une équipe de réflexion pour mettre en place quelque chose qui va donc voir l'adhésion des populations. Sur ce, on s'est dit que vaut mieux créer une structure fédératrice. Et on a pensé en premier lieu de créer genre conseil de quartier. C'est-à-dire on a convoqué une assemblée générale pour échanger sur l'idée qu'on avait avec le groupe d'amis. Et après réflexion, on s'est dit on va essayer de revenir en assemblée générale dans quelques mois, pour ne pas être pressé. Mais quand même, il y avait l'idée déjà dans le quartier, et voire même dans la ville. Mais on s'est rendu compte que les gens étaient exactement intéressés. On était un peu un quartier isolé du reste de la commune, derrière la voie ferrée, Guinaouraï en Wolof. Donc c'est des ruraux qui sont venus en exode vers la commune, et pour assurer leur intégration. Mais on s'est dit, pour une autonomisation, pour des outils d'insertion, pour leur prise en charge, mais comment créer quelque chose qui pouvait les fixer sur place?
On sent dans ce que vous dites que la place des femmes est essentielle. Pourquoi?
Mais parce que, exactement, elles sont porteuses de tout autre projet humain. Un, c'est elles qui donnent naissance aux enfants. Deux, c'est les, comme on dit chez nous, c'est les amis des papas. Tout ce qu'elle veut, les papas veulent ça. On s'est dit de façon stratégique, vaut mieux d'abord, parce que c'est elles qui font presque tous les travaux dans les maisons chez nous. Donc, il faut leur donner des activités génératrices de revenus. Sur ce, après l'Assemblée générale de constitution du ciel, nous sommes allés à Dakar dénicher les 10 cadres qui habitaient le quartier et qui nous ont prêté chacun 50 000 francs CFA. Chaque femme a amené 1000 francs, c'était le fonds de départ. Nous sommes allés à Dakar payer des marchandises et après nous sommes revenus pour la consommation dans la famille. On donnait à chaque mère une partie des produits pour vendre ça dans sa propre consommation. Mais si on vend le produit, supposons 25 francs, avec 15 francs le prix d'achat, les 10 francs c'est les bénéfices. On donne 5 francs à celle qui a vendu et 5 francs pour le fonctionnement du centre. On doit tendre vers une autonomisation du centre. C'est pourquoi, vraiment, on s'était basé sur les femmes pour vraiment porter ce projet qui nous est très cher en tant que population. Et là, on a eu des femmes auditrices, on a eu les handicapés qui ont eu à faire le maraîchage hors sol, parce qu'on veut lutter également contre la mendicité.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, sur cet aspect-là, parce que... C'est surprenant, on se demande comment concrètement ça se réalise, ça.
Mais dans le centre, comme c'était un espace un peu limité, je vous ai dit, c'est sur 250 mètres carrés. Ouais. On n'avait pas de terrain pour faire de la culture sous-sol. On était obligé de voir avec les nouvelles technologies. On a fait appel à des techniciens d'un centre horticole cambérien qui est à Dakar. Et ces techniciens nous ont appris à des handicapés moteurs du quartier, donc les techniques de maraîchage hors sol. Et on a eu affaire des tables avec de la salade, avec des tomates, avec des piments, dans le centre. Et de là, les handicapés, même les autres qui étaient dans la rue pour aller manger, sont venus parce qu'ils y trouvaient leur affaire. Et les premières récoltes, j'avoue, ont permis à ces handicapés, parce que nous, on veut de l'autonomisation. C'est-à-dire qu'on ne les fait pas travailler pour gagner de l'argent, on les fait travailler pour qu'ils puissent devenir libres, autonomes, indépendants économiquement. C'est pourquoi ils se sont organisés eux-mêmes. Ils se sont fixés des cotisations, ils ont augmenté le nombre de tables. Ce qui a fait aujourd'hui, d'ailleurs, que nous sommes pour l'extension du sang sur le maraîchage sur sol. C'est un projet non seulement de culture maraîchère, mais d'aviculture pour, au finish, également essayer de lutter contre la sous-alimentation, la malnutrition. Par exemple, les puéricultrices dans notre centre ont des problèmes avec les enfants. Mais ce n'est pas les mêmes réalités, surtout dans une commune rurale au Sénégal. On ne mange pas comme en France. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Parce que là-bas, ce n'est ni la même culture. Et c'est pourquoi je dis également que c'est là où il y a un grand travail avant par les clubs UNESCO. C'est-à-dire essayer de travailler l'interculturalité pour un développement durable. Partage équitable des ressources humaines. Comment ne pas également faire de telle sorte que demain, ce qu'on taxe de dominant soit des dominés, mais il faut un équilibre. Et comme, moi j'ai peut-être laissé la parole aux autres, c'est dans l'esprit des hommes que naissent les guerres. C'est dans l'esprit des hommes qu'il faille élever les défenses de la paix. Et ça, je l'ai appris de l'UNESCO, et je pense que c'est la réalité. Ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, s'ils étaient amis, ça n'allait pas se passer comme ça. Que ce soit les intérêts du président Poutine, que ce soit les intérêts du président français, s'ils étaient amis avec les Syriens, tous les deux, avec des intérêts, que ce soit même des enjeux économiques, ça n'allait pas se passer comme ça, parce qu'on ne veut pas détruire ses amis. C'est pourquoi, encore une fois de plus, il faut que les gens se retrouvent au niveau des idéaux de l'UNESCO, qui sont des vertus, qui mettent en avant la valeur humaine. Nous sommes tous des humains. Il n'y a aucune différence, c'est des problèmes de mutation au niveau des chromosomes. Nous avons tous 46 chromosomes. Il y a 44 autosomes pour la détermination du soma, 2 chromosomes sexuels pour la détermination donc du sexe. Et ce qui fait qu'il y a blanc et noir, c'est un problème de phénotype et non pas de génotype. Ce n'est pas le fondamental. Merci.
Vous êtes enseignante dans un lycée qui est club UNESCO. Comment est-ce que ça s'est créé? Comment s'est passée la rencontre?
Eh bien, donc, nous sommes rencontrés grâce à Françoise, puisque j'avais déjà été intéressée par une exposition de l'UNESCO à la MJC de Pamiers, qui présentait tout simplement les villages, etc. Et quand Françoise m'a proposé une structure organisée avec des idéaux, des valeurs pour les élèves, j'ai proposé une réunion et les élèves sont venus d'eux-mêmes. Pour justement travailler à cette solidarité internationale et mieux connaître l'Afrique, tout simplement, dépasser les clichés. Et ils voulaient aussi avoir des correspondants. Donc on leur en a trouvé, ça se passe très bien. Et ils ont beaucoup échangé. Et ensuite, on a préparé, sur 3 ans, on a préparé notre départ pour le chantier.
Et oui, parce que là quand même, on sait aujourd'hui, c'est pas évident des fois d'organiser ce genre de voyage, donc ça a dû être un sacré combat en interne déjà pour faire partir tous vos élèves. Enfin, je ne sais pas si tout le monde est parti, combien d'élèves sont partis?
J'ai pris que 7 élèves,
d'accord.
Les membres actifs du club UNESCO. Et je les ai bien préparés parce que c'est quand même assez difficile, il faut se vacciner, il faut être prêt à une autre alimentation, une autre culture, etc., d'autres horaires, une autre organisation de la vie de tous les jours, respecter les coutumes, etc. Donc c'était des élèves très motivés qui, je vous dis, sur 3 ans, seconde, première, terminale, ils ont préparé ça. Donc petit à petit, ils apprenaient à connaître l'Afrique par leurs correspondants. Et puis on élaborait le projet, nous, entre les deux clubs. Et ensuite, ça a été très facile à monter puisque l'administration nous soutient pour tout ça. Puisque ça ouvre les enfants à l'interculturel, au monde et aux échanges. Donc, à la solidarité aussi internationale. Ce qui fait qu'on m'a permis de faire plein d'actions. Des crosses solidaires, des actions solidaires, des tas de ventes pour pouvoir récolter des fonds pour le centre.
Donc du coup, vous, sur Pamiers, vous avez également participé au financement du centre.
Oui, okay. Déjà là. Bon, déjà, il a fallu qu'on monte notre projet pour aller faire le chantier là-bas. Donc c'est vrai que ça prenait une partie du budget, malheureusement. Mais on a quand même amené toute une partie pour financer le centre. Et à l'heure actuelle, maintenant, nous continuons à faire le même type d'actions, des petites actions d'autofinancement, de vente, tout simple, emballage de papier cadeau, marché de Noël, vente de gâteaux, etc., pour participer aux nouveaux travaux qui ont lieu sur le centre. Donc petit à petit, ça se fait par toutes petites étapes. Maintenant que le centre a été construit pour les murs, nous, on apporte un petit peu d'argent pour chaque étape, par exemple l'électricité, les portes et fenêtres. Voilà. Et là, on en est au carrelage. Donc,
c'est très concret, tout ça.
Il serait peut-être intéressant que vous nous parliez de ce que sont devenus ces enfants qui ont fait le voyage. Parce que nous voyons très bien qu'ils ont eu une belle expérience et nous voulons savoir ce que cette aventure a sémé dans leur vie aujourd'hui.
Et maintenant, elles sont des étudiantes.
Oui. Donc c'est vrai que je les ai un petit peu perdues de vue. En fait, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont lancé le projet, surtout avec là-bas les autres élèves sénégalais. Et donc maintenant, mes nouveaux élèves, c'est comme s'ils avaient pris leur place quelque part. Ils ont passé le relais quelque part. Et après, eux, je sais qu'ils ont fait beaucoup de choses au niveau de l'Europe, au niveau de la coopération internationale, dans différents créneaux, soit par Erasmus.
Une ouverture au monde. Et je crois que même s'ils sont partis sur d'autres projets, je crois qu'on leur a donné le goût d'aller vers les autres. Et puis, c'est tellement agréable, c'est tellement extraordinaire d'arriver dans un pays et au lieu d'être... Un touriste qui va aller à l'hôtel et qui va finalement suivre le guide francophone et rien voir. Tandis que là, ce qu'il y avait, c'est qu'on était reçus, on allait dans des familles d'accueil, on partage. Et puis, alors ce qu'il y avait de très intéressant, c'était les soirées débat sous les étoiles. Et là, on échangeait librement. Donc, il y avait une soirée, c'était sur la condition des filles. Une autre soirée, on a parlé des migrants. Et il y avait des échanges entre ces lycéens sénégalais et ces lycéens français. Je crois que là, ça leur a, dans l'esprit des deux, ça a changé. Il y a une chance de mentalité.
Alors, du coup, j'aimerais qu'on ouvre un peu vers l'avenir. Donc, vous avez parlé... de ces travaux, du passage du... Alors, c'est l'inverse, du hors-sol au maraîchage en plein sol. C'est quoi l'avenir proche et puis votre rêve par rapport au ciel?
Mais merci, peut-être ça me donne également l'occasion de parler un peu des travaux qui étaient bloqués par un malentendu au niveau du fisc. En fait, il y a un protocole entre la France et le Sénégal qui dit qu'il ne devrait pas y avoir de taxe sur une subvention du Fonds social de développement de l'ambassade. Malheureusement, ils nous ont prélevé 17% de la subvention au niveau du Trésor, ce qui a créé un gap, de telle sorte que les travaux ont été bloqués pendant 7 ans. Il a fallu peut-être la détermination, la volonté des jeunes du club UNESCO Teranga, du lycée Clémence Roy et de Fonsorbe pour nous envoyer un premier mandat de 2 000 euros qui est immense pour nous, peut-être vraiment pour redémarrer les travaux. Et heureusement, avec ce club UNESCO Teranga, nous sommes aujourd'hui en phase d'achèvement grâce à leur volonté. Et il nous reste à ouvrir le centre courant octobre, au plus tard le 1er novembre. Parce que l'ancien abri provisoire n'a plus de sécurité. Ça fait 15 ans presque que nous sommes là-bas. Maintenant, il faut qu'on regagne les nouveaux locaux. Et grâce à ces jeunes, on a mis les fenêtres, on a mis les portes, on a fait les accotaires, il y a un peu de sécurité, on a fait le réseau électrique. Nous sommes en phase de trouver, avec un projet souvenir de ce même lycée, le carrelage. On a rencontré un club UNESCO à Gaïa qui veut s'engager dans notre projet pour le creusement d'un puits qui fonctionnerait avec l'énergie solaire.
Un club UNESCO de collège.
De collège.
Taillefer de Gaïa.
Voilà. Donc vous voyez un peu que mon rêve le plus absolu et le plus imminent, c'est une urgence absolue pour nous, c'est de ne pas décevoir ces jeunes Français. Tout le reste viendra avec le temps. Si on a pu attendre 7 ans et qu'on trouve des jeunes Français qui font des efforts sur la base de petites actions anodines, arrivent à nous envoyer 4000 euros pour redémarrer nos travaux, moi je dis que mon rêve, c'est de voir ce centre fonctionner, être opérationnel et qu'il vienne au Sénégal inaugurer ça.
Alors, avec votre permission, Alexandra Joss, j'aimerais savoir aujourd'hui, je vais revenir sur Monsieur Abdou Diom pour lui demander aujourd'hui qu'il est à Toulouse, quel est l'objet de son périple en Europe.
Mais merci Francis, mais c'est pas compliqué parce que comme je vous l'ai dit à l'entame de mes propos, les travaux étaient bloqués. Et pour relancer les activités, il fallait aller vers ceux qui sont porteurs aujourd'hui de notre espoir. Les jeunes du club UNESCO Teranga, du lycée Clémence Royer. Mais c'est pour dire le petit mot merci à ces jeunes, mais également les encourager à peut-être s'ouvrir au reste du monde et à être solidaires vis-à-vis des pays du Sud, premièrement. Mais deuxièmement, pour faire comprendre à l'administration que peut-être il y a une petite structure dans le lycée qui s'appelle Club UNESCO, qui est en train de mener des actions dont l'administration peut ne pas maîtriser, moi je dis l'ampleur. Mais également, des essences sur le plan pédagogique. Parce que pour dire à ces jeunes qu'ils sont dans un système éducatif, qu'ils qualifient peut-être de ne pas être excellents, mais moi je dis que c'est un système qui n'a rien à envier aux autres systèmes éducatifs du monde, malgré que, à toute œuvre humaine, il faut qu'il y ait des insuffisances. Mais ne serait-ce que pour donner un exemple très concret, j'ai fait un cours de SVT avec un collègue dans sa classe de terminale, sur la paillasse, il y avait une valeur d'un montant de 1500 euros de matériel. Entre l'oxymètre, l'ordinateur, les échantillons, les tubes à essai, etc. Alors que je peux dire que dans un lycée ou dans un collège du Sénégal, tu pourrais prendre le budget du laboratoire, peut-être avec ce même montant. Et je le disais que ici, l'échec, c'est une exception. C'est la réussite qui est la règle, mais c'est le contraire chez nous. Exactement.
Ceci est d'ailleurs valable pour toute l'Afrique francophone, hein, sans exception.
Pour être concret, en valeur absolue, les résultats du BAC ont donné aujourd'hui 30% au Sénégal. Cela veut dire quoi? Que sur 100 candidats présentés au BAC, il y a 70 échecs, il y a 30 réussites. Ce serait un scandale en France, j'espère. Bref, pour dire que si je viens en France, il y a des échanges dans le cadre de l'UNESCO, qui est une organisation des Nations Unies pour l'éducation. Il y a des essences dans le cadre, donc il y a des critères éducatifs que nous tenons en compte. C'est d'aller dans les classes, voir ce qui se passe et parler aux jeunes. Il y a un caractère scientifique, c'est l'approche pédagogique qui est différente entre les pays. Il y a un caractère culturel, c'est voir comment les gens réagissent. S'ils sont devant 28 élèves, ils disent que c'est une classe pléthorique. Au Sénégal, pour ne pas exagérer, la moyenne dans les classes est 70. Et tu entends une mouche voler. Parce que c'est un problème de survie.
Radio pour l'UNESCO.
Pour une culture de la paix.
Médias communs. Éduquer aux médias, au monde numérique et à la libre expression. Médias communs est une association d'éducation populaire active sur Toulouse et la région Occitanie depuis 2006. Retrouvez toutes les infos sur nos ateliers et nos formations sur mediacommun.fr et toutes nos émissions sur la web radio du libre ondecourte.fr.